Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce mardi 1er décembre. Avec vous, Christophe Mallet et Jean-Noël Ducasse pour cette heure en français. Au sommaire, le journal Les Sports, le journal de la semaine en France. Et on continuera avec notre série sur les profs de français en Australie. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce mardi, les retombées se poursuivent après que la Chine ait tweeté une image modifiée représentant un soldat australien tentant de blesser un enfant afghan. Les températures devraient battre les records alors qu'une vague de chaleur continue d'affecter l'est de l'Australie. Ce 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. En Australie d'abord, le ministre de l'immigration par intérim, Alan Tudge, a déclaré qu'il s'était entretenu avec des membres de la communauté australo-chinoise pour répondre à toute préoccupation avec l'escalade des tensions politiques entre l'Australie et la Chine. La Chine a refusé de s'excuser pour avoir publié une image modifiée sur Twitter montrant un soldat australien tenant un couteau ensanglanté à la gorge d'un enfant afghan. L'image a été publiée par le porte-parole des affaires étrangères de la Chine, Zhao Lijian, et évoque les résultats de l'enquête Brereton sur les crimes de guerre présumés commis par des soldats australiens en Afghanistan. Alan Tudge déclare qu'il a organisé hier une téléconférence avec un certain nombre de dirigeants communautaires sino-australiens à travers le pays, qui lui ont dit qu'ils étaient tous aussi consternés par la fausse image. Selon le ministre, une conférence à plus grande échelle aura lieu plus tard cette semaine.
That tweet represented the views of the Chinese Communist Party alone and does not represent the views of the 1.2 million Australians who have Chinese heritage. And those 1.2 million Australians are like anybody else, they're hard working, they're going about their business, raising their families and making an enormous contribution to our country. And certainly their tweet does not diminish our respect at all for the hard working Australians, no matter what their heritage is.
Et le député du Parti national, Barnaby Joyce, a déclaré que les actions du porte-parole des affaires étrangères, Zhao Lijian, en tweetant l'image modifiée, sont regrettables.
It's not the work of a smart diplomat. It's a work of a stupid high school student with an incredibly vindictive edge to it. Now, people such as Zhao Lijian, they serve their purpose. They think they're wolf warriors, but they're actually just a form of a Chinese rocket. They're incredibly colourful, short-lived. They go to great heights quickly and explode, never to be seen again.
Et puis des conditions de canicule sévères à extrêmes prévues et des dangers d'incendie dans le sud du Queensland, l'intérieur de la Nouvelle-Galles du Sud et le nord du Victoria ce mardi 1er décembre. Des interdictions totales d'allumer des feux ont été déclarées dans plusieurs zones des trois États. En Nouvelle-Galles du Sud, les interdictions d'allumer des feux couvrent le nord-ouest de l'État, les Northern Slopes, Lower Central West Plains, Central Ranges, Northern Riverina, Eastern Riverina et Southern Riverina. Dans le Victoria, des interdictions d'allumer des feux sont en place pour le Mallee et Wimmera. Dans le Queensland, des interdictions d'allumer des feux sont en place pour 8 zones, y compris Bundaberg, Fraser Coast, North et South Burnett, Cherbourg, Gympie, Sunshine Coast et Noosa. Dean Naramore du bureau de la météo a déclaré qu'un certain nombre de records de température devraient être battus.
Temperatures will soar into the mid to high 40s, with Bourke currently forecasting 48 degrees, Walgett and Birdsville 47. While bursts of heat and heat waves are normal for this time of year, what's making this burst of heat exceptional is temperatures up to 18 degrees above average and many locations breaking records.
Surf Life Saving Australia exhorte les Australiens à être vigilants autour des plages et des piscines lors de la première journée nationale de la sécurité aquatique. Le gouvernement fédéral appuie l'initiative visant à réduire le nombre de noyades en Australie. Entre juillet 2019 et juin 2020, il y a eu 248 décès par noyade en Australie, dont 45 sur les plages australiennes. George Shales, président de Surf Life Saving New South Wales, a déclaré que les sauveteurs avaient effectué 160 sauvetages dans l'État au cours du week-end dernier et qu'ils se préparaient pour une saison chargée.
Our drowning statistics are at 16 already this year, and that's way too high. So we would ask the public to ensure that they understand what their capabilities are before they head to the beaches across New South Wales. We have a lot of resources. We have 25,000 active lifesavers well prepared to assist, but our aim is on prevention. So we would ask you to take care when you're swimming at the beaches across New South Wales.
Le Queensland a rouvert la frontière aux voyageurs du Victoria et du Greater Sydney avec l'espoir de relancer un boom économique. On s'attend à ce que des milliers de personnes viennent dans le Sunshine State. Virgin Australia mettra plus de 100 000 places à la disposition des voyageurs des deux États avant Noël et le groupe Qantas a programmé 410 vols par semaine. Après 9 mois, l'Australie occidentale va rouvrir ses frontières à ceux qui voyagent venant du Victoria et de Nouvelle-Galles du Sud à partir de mardi prochain, 8 décembre, s'il n'y a pas une flambée de l'épidémie de COVID-19 dans ces deux États d'ici là. Les personnes de ces États ne seront pas tenues de se mettre en quarantaine pendant 14 jours, mais les voyageurs arrivant à l'aéroport et traversant la frontière seront soumis à des contrôles de santé. Le chef de WA, Mark McGowan, déclare qu'il se réserve la possibilité de refermer la frontière si nécessaire.
Western Australia, of all the states, will be the only one still with a controlled border in place. So you'll need to go through health screening, health checks. You'll need to put in place the G2G pass. It's not completely free movement. And what these measures mean is if we need to overnight scale up the border, we can do it in a matter of hours.
Ailleurs dans le monde, plusieurs attaques djihadistes contre la force française Barkhane au Mali, dans le nord du pays. Précision de David Bachet pour Radio France Internationale.
À Kidal, à Gao et à Ménaka, les attaques ont toutes eu lieu entre 5h30 et 7h du matin. Aucune victime et très peu de dégâts matériels. Les tirs sont tombés à côté, partout ou presque. La force Barkhane évoque des tirs indirects qui n'ont fait aucun blessé. À Kidal, 2 obus sur 8 tirés ont touché la partie onusienne du camp que Barkhane partage avec la MINUSMA. Pas de précision sur l'ampleur des dommages. Des informations confirmées par plusieurs sources locales et onusiennes. Mais les acteurs sécuritaires et militaires présents au Mali relève surtout la coordination de ces attaques perçues comme un mauvais signal. Il n'a fallu que quelques heures au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, affiliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique, pour revendiquer ces tirs et pour citer nommément leur cible, l'armée française des croisés. Là encore, une revendication aussi immédiate n'est pas la norme, ce qui semble bien montrer l'intention, agresser, attaquer, mais surtout adresser un message à l'ennemi numéro 1 d'ACMI, la France. En tout cas dans le nord du Mali, puisque dans le centre, ce sont les forces de sécurité maliennes et les civils maliens qui chaque semaine sont visés, avec des bilans malheureusement bien plus importants.
Le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Ghebreyesus, a salué la première baisse hebdomadaire des cas mondiaux de COVID-19 depuis septembre dernier. Selon lui, l'impact des mesures principalement en Europe, qui est durement touchée, a pris effet, mais il met en garde contre la complaisance. Il a exhorté les gens à éviter de voyager pendant la période des fêtes.
This is welcome news, but it must be interpreted with extreme caution. Gains can easily be lost, and there was still an increase in cases in most other regions of the world, and an increase in deaths. This is no time for complacency, especially with holiday season approaching in many cultures and countries.
Aux États-Unis, des milliers de personnes ont voyagé pour célébrer Thanksgiving et les autorités craignent une recrudescence de contamination de COVID-19. Aux États-Unis, toujours, le président élu Joe Biden a nommé 7 femmes dans son équipe de communication. Explication de Muriel Paradon pour RFI.
Ces femmes apportent une perspective différente à leur travail, selon Joe Biden. Elles brisent les barrières, dit même Kamala Harris, la vice-présidente américaine, qui est elle-même la première femme à occuper ce poste. La nomination d'une équipe de communication exclusivement féminine à la Maison-Blanche marque une volonté de rupture avec la précédente administration. Les 7 heureux élus ont toutes de l'expérience, comme Jen Psaki, 41 ans, choisie comme responsable de la presse. Elle avait occupé notamment le poste de directrice de la communication sous Barack Obama. Nommée comme adjointe, Karine Jean-Pierre était la directrice de campagne de Kamala Harris. Elle rassemble à elle seule beaucoup de symboles, noire, ouvertement lesbienne, immigrée, ses parents sont d'origine haïtienne. Elle déclarait en 2018 être tout ce que Donald Trump déteste. En dehors de ses postes à la communication de la Maison-Blanche, d'autres nominations importantes devraient intervenir dans les jours qui viennent. D'autres femmes de couleur dont les noms circulent dans la presse et qui font déjà grincer des dents dans les rangs des républicains.
Les dirigeants en exil de la région de Papouasie-Occidentale déclarent qu'ils espèrent que leur décision de former un gouvernement provisoire les rapprochera de leur objectif d'indépendance vis-à-vis de l'Indonésie. Les provinces les plus orientales de Papouasie et de Papouasie-Occidentale sont sous domination indonésienne depuis 50 ans, après avoir été cédées dans le cadre d'un accord approuvé par les Nations Unies pendant la guerre froide. Les militants de la Papouasie-Occidentale font pression pour l'indépendance, affirmant que les circonstances du scrutin qui ont conduit à l'accord étaient défectueuses, ne permettant qu'à un millier de papous tirés sur le volet de voter. Le chef de l'indépendance pour la Papouasie-Occidentale, Benny Wenda, a déclaré sur SBS News que les dirigeants exilés se sont réunis à Londres pour mettre en œuvre cette prochaine étape importante.
We are disturbed by escalating violence, including killings in the Indonesian provinces of Papua and West Papua, and the increased risk of renewed tension and violence. UN human rights experts have repeatedly expressed serious concerns regarding the intimidation, harassment, surveillance, and criminalization of human rights defenders. We urge all parties to prevent further violence.
Les chiffres du rapport annuel de l'ONU SIDA ont révélé que les personnes vivant avec le SIDA étaient plus susceptibles de vivre dans des conditions qui rendaient difficile la distance physique, augmentant ainsi le risque de mourir du COVID-19. La directrice de l'ONU SIDA, Winnie Byanyima, a déclaré qu'à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le SIDA ce 1er décembre, que les progrès ont stagné sur l'objectif de mettre fin au SIDA en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030. En mode culture, le prix Goncourt a été annoncé par visioconférence. COVID-19 oblige. Catherine Fruchon-Toussaint pour RFI revient sur le lauréat Hervé Le Tellier pour l'anomalie.
Succès de librairie, l'anomalie rallie tous les suffrages depuis sa sortie, critiques et publics. Ce n'est donc pas une surprise que les jurés du Goncourt aient choisi Hervé Le Tellier, qui a 63 ans et déjà l'auteur de plusieurs livres, mais qui ici a fait mouche avec ce roman enthousiasmant. Entre polar et science-fiction, l'écrivain imagine qu'en 2021, un avion sur la ligne Paris-New York subit une terrible tempête, mais poursuit son vol comme prévu. Sauf que 3 mois plus tard, le même avion avec les mêmes 257 passagers réapparaît dans le ciel et demande lui aussi à atterrir. Fantastique, impossible, magique, oui c'est tout cela, puisque comble de l'irréel, toutes les personnes à bord vont se retrouver face à leurs doubles qui ont déjà repris leur existence. Ambitieux sans être prétentieux, ce roman est autant un divertissement qu'un vrai questionnement sur le champ des possibles et du tournant que peuvent prendre nos vies à cause d'une anomalie, un sujet qui pour beaucoup fait écho à l'année écoulée.
À signaler que le prix Renaudot 2020 a été décerné à Marie-Hélène Lafont pour Histoire du Fils. On passe à la météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 24 degrés. Adélaïde, 21. Melbourne, 27. Hobart, 26. Canberra, 35. Sydney, 29. Brisbane, 32. Cairns, 33. Et à Alice Springs, maximal de 36 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi, les retombées se poursuivent après que la Chine ait tweeté une image modifiée représentant un soldat australien tentant de blesser un enfant afghan. Les températures devraient battre les records alors qu'une vague de chaleur continue d'affecter l'est de l'Australie. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Journal des sports, et on commence avec la Formule 1 et cet énorme accident du Français Romain Grosjean. Énorme accident, juste deux virages dans le Grand Prix, il a transpercé la barrière, la voiture a complètement explosé. Et c'est sûrement l'homme le plus chanceux du monde. Il s'en sort avec quelques brûlures minimes aux mains et aux chevilles. Le bilan de tout ça avec Thomas de Saint-Léger.
Les images sont impressionnantes, sa monoplace s'est fendue en deux après avoir heurté le rail de sécurité, elle s'est ensuite embrasée obligeant Romain Grosjean à s'en extraire en urgence au milieu des flammes. Le Français a ensuite été évacué vers un hôpital, il souffre a priori de brûlures légères, la course bien sûr a été arrêtée, elle a repris et c'est comme souvent le Britannique Lewis Hamilton qui s'est imposé au volant de sa Mercedes.
Thomas de Saint-Léger donc pour la Formule 1. Et vous l'aurez compris, c'est donc Lewis Hamilton qui remporte ce Grand Prix de Bahreïn, prochain Grand Prix, même endroit, sous un nom différent, la semaine prochaine, donc dimanche prochain, sans Romain Grosjean qui a dû être remplacé, on le comprend très bien. Allez, on parle maintenant de rugby et aussi un bel hommage à Christophe Dominici, ce super joueur français qui nous a quitté la semaine dernière. Retour sur l'homme Christophe Dominici avec Cédric de Oliveira.
Christophe Dominici a pris le ballon, il l'a passé, essai français, essai de Christophe Dominici, c'est un génie,
essai, oui, extraordinaire.
L'exploit est resté dans les mémoires, c'était un jour d'octobre 1999. La France affronte la Nouvelle-Zélande en demi-finale de Coupe du Monde, l'un des plus beaux matchs de l'histoire. Et Christophe Dominici se faufile dans la défense des tout-puissants All Blacks pour inscrire un essai sublime. Le fait d'armes le plus célèbre de l'ailier aux 67 sélections, lancé en équipe de France 18 mois plus tôt par le sélectionneur de l'époque, Jean-Claude Scrella.
C'était un très très grand joueur, quoi. Un joueur en rugby total, quoi, avec beaucoup de mouvements. C'était un leader de ce jeu-là, une intelligence sur le terrain qui était exceptionnelle. Il tirait tout le monde vers le haut, quoi. Christophe était un leader sur le terrain. Il ne s'exprimait pas beaucoup, beaucoup, mais de par l'exemple qu'il donnait, les autres suivaient. Bon, c'était un gagnant.
Dominici a beaucoup gagné dans sa carrière. 5 fois champion de France avec le Stade français, 4 fois vainqueur du tournoi des 5, puis 6 nations avec les Bleus. Le funambule a réussi à mener une carrière extraordinaire malgré un gabarit modeste. Un homme au caractère bien trempé qui ne laissait personne indifférent sur le terrain comme en dehors. Ailier lui aussi, Cédric Emmons, qu'il a croisé lorsqu'il portait le maillot bleu, se souvient.
Christophe était un garçon qui rassemblait, qui tirait pas la couverture à lui. C'était vraiment le joueur qui voulait avoir toujours du monde autour de lui. Moi, j'ai démarré plus tard en équipe de France, mais c'est vrai qu'il était inspirant comme garçon, il était passionné. Et c'était pas le plus grand gabarit, avec son 1m75, il était capable de défier des joueurs comme Lomu, donc il était forcément inspirant et on avait envie de faire ce qu'il faisait.
Retraité des terrains à 36 ans, Dominici empruntera ensuite un parcours plus sinueux. Éphémère entraîneur adjoint du Stade français, il avait tenté récemment de racheter le club de Béziers qui évolue en Pro D2. Sans succès, sa disparition soudaine à 48 ans a provoqué un vif émoi. C'est tout le rugby et même le sport français qui perd l'un de ses plus beaux ambassadeurs.
Cédric de Oliveira. Allez, on va parler maintenant de football et on revient sur le décès de Diego Maradona. Et une enquête a été ouverte sur les circonstances de sa mort. Hugo Moissonnier.
En Argentine, peut-être le début d'une affaire Maradona. L'enquête sur les causes du décès avance. Le drame aurait-il pu être évité? Aujourd'hui, son médecin, Leopoldo Luque, a été mis en examen pour homicide involontaire. Georges Quirino, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes à Buenos Aires pour RFI et la nouvelle a fait l'effet d'une bombe aujourd'hui en Argentine.
Exactement, et elle fait la une. Des perquisitions ont eu lieu au domicile et à la clinique du docteur Leopoldo Luque. Les enquêteurs ont récupéré des documents, des ordinateurs, des téléphones, toute l'information autour de la santé du PBDORO. La justice cherche à savoir s'il y a eu une négligence médicale. Tout a été déclenché vraiment par les doutes des filles de Maradona entendues par la procureure la nuit dernière. Le médecin, très ému, s'est exprimé tout à l'heure à son domicile pour ce qui pourrait être une longue affaire. Écoutez-le.
Je vais être à disposition de la justice à 100%, mais ce que j'ai fait avec Diego, pour Diego, jusqu'au dernier moment, je peux tout montrer. Je suis absolument sûr d'avoir fait le mieux possible avec Diego. Les choses qui se disent, je ne peux même pas les lire. Moi, je suis triste parce que mon ami est mort. Une personne que j'ai accompagnée jusqu'au dernier moment, parce que c'est ce qu'il voulait.
Hugo Moissonnier, un autre footballeur qui est décédé. Décidément, c'est vraiment la loi des séries. C'est Papa Bouba Diop. Vous vous en souvenez peut-être, Papa Bouba Diop, ça a été le premier buteur de la Coupe du Monde de 2002. Pourquoi on s'en souvient? Puisque c'était contre la France. Et le premier but donc du Sénégal contre la France, il avait 42 ans. Thomas de Saint-Léger.
Papa Bouba Diop, c'était un rock, 1m94, un joueur habile aussi, l'auteur d'un but historique à la Coupe du Monde 2002 contre la France. Ce tacle à bout portant, synonyme de victoire 1-0 pour les Lions de la Teranga face aux champions du monde en titre. Il avait récidivé quelques jours plus tard contre l'Uruguay en marquant deux fois, finaliste de la CAN en cette même année 2002. Bouba Diop avait aussi brillé en club, vice-champion de France avec Lens et vainqueur de la Coupe d'Angleterre avec Portsmouth, l'hommage d'un ancien coéquipier, un autre lion célèbre, El Hadji Diouf.
Je dirais que un lion ne meurt jamais. Merci pour tout ce qu'il a fait pour le pays. Merci pour tout ce qu'il a fait pour le continent. Et on l'oubliera jamais. Pour moi, c'était pas un ami, c'était un frère. Parce que j'ai eu la chance de partager le club avec Papa Bouba Diop à Lens et avec l'équipe nationale.
Thomas de Saint-Léger. Allez, le point sur le Vendée Globe Challenge. On sait qu'il y a quatre bateaux qui ont maintenant été détournés pour aller aider un des bateaux en détresse. Le point sur la course en elle-même avec Sylvie Berouet.
La voile, le troisième du Vendée Globe, est en grande difficulté.
Et oui, Kevin Escoffier a dû quitter son bateau car celui-ci a été victime d'une importante voie d'eau. De l'eau est entrée dans son bateau. Il se trouve donc, Kevin Escoffier, sur un radeau en attente d'être secouru, et il a demandé au concurrent le plus proche de venir l'aider, donc c'est le quatrième, Jean Lecam, qui est arrivé le plus vite auprès de Kevin Escoffier, mais l'opération s'annonçait très délicate en raison d'une mer agitée.
Il y a un dernier mot de sport avec le match et le retour de Mike Tyson sur les rings, comme nous l'explique Loïc Piala.
La soirée a eu des petits airs de concert de hip-hop. Entre les combats, Wiz Khalifa, French Montana, St. John se sont succédés dans un Staples Center vide, sans oublier Snoop Dogg, local de l'étape. Une légende du rap avant deux légendes du ring, logique, son joint, fumé en direct à la télévision, a rappelé aux téléspectateurs qu'il regardait bien une exhibition. Mike Tyson est arrivé sur le ring sans fioriture. Il avait ressorti sa tenue habituelle, un short noir et court et des chaussures sans chaussettes. Le poids lourd n'a pas changé de style non plus 15 ans après son dernier combat. Cette garde haute, ses jambes montées sur ressort, cette pression incessante. Iron Mike, 50 kilos de moins sur la balance pour l'occasion, s'était bien préparé. En face, Roy Jones Jr. s'est souvent accroché pour limiter les coups. L'ex-champion du monde dans 4 catégories a aussi pris des risques.
Je voulais vraiment faire le spectacle. Je voulais gagner aussi, mais le spectacle, il le fallait pour le public. Vous voyez ce que je veux dire? Une personne normale serait stupide de faire face à Mike Tyson avec les mains baissées, mais c'est le style Roy Jones, donc je l'ai fait. Organiser un événement comme celui-là pendant une pandémie, ça a permis aux gens de penser à quelque chose de positif.
Le combat entre les deux quinquagénaires a parfois été un peu brouillon. Du coup, Snoop Dogg, qui commentait, s'est autorisé une moquerie.
On dirait deux de mes oncles qui se tapent dessus à un barbecue.
Pour s'adapter à l'âge des participants, les rounds duraient 2 minutes au lieu de 3. 8 rounds largement dominés par Mike Tyson, même si les juges ont vu un nul. Qu'importe.
Loïc Piala pour RF. Et pour conclure ce journal des sports, on va parler de handball, coup d'envoi de l'Euro féminin. Hugo Moissonnier.
Coup d'envoi de l'Euro féminin de handball. Il sera donné jeudi au Danemark. 16 pays en lice, notamment la France, tenante du titre, mais elle reste sur un fiasco. Lors du Mondial 2019, au Japon, elle avait terminé 13e. Alors il faut se relancer avant les JO au Japon également, avec Siraba Dembélé, capitaine et lière de Bucarest. Elle n'était pas au dernier Mondial pour cause de maternité, mais elle est en interview avec Christophe Diramson.
Après une longue pause, on a toujours un certain enthousiasme, une certaine impatience de revenir au plus haut niveau, de reprendre la compétition, de revivre des émotions. Donc oui, cette compétition elle va être belle à vivre.
C'est un contexte sanitaire quand même assez compliqué. La Norvège s'est retirée de l'organisation de l'Euro et puis l'étape de Golden League a été annulée. Ça vous fait autant de matchs de préparation en moins, c'est pas un handicap quelque part?
Non, parce qu'on se retrouve aussi à la maison du handball pendant 10 jours où on peut très bien travailler sans se mettre la pression du match, des matchs amicaux, de se dire bon ben on sait pas comment ça va se passer. Donc là je trouve que c'est bien, c'est un moment pour nous, on est tout seul, voilà, on travaille, on peaufine les affinités, et on essaie d'arriver le plus près possible à la compétition. Donc je pense que c'est aussi une bonne chose.
Hugo Moissonnier, voilà pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez Le Français, vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite. Et comme chaque mardi, on va faire le tour d'horizon de l'actualité en France cette semaine avec Émile Matasso. Bonjour Émile.
Christophe, bonjour, bonjour à tous.
Alors, à la une, la mobilisation contre le projet de la loi sur la sécurité globale.
Oui, ce projet de loi qui a été adopté à l'Assemblée nationale et qui doit être présenté au Sénat, il est en train de diviser à la fois les Français, mais aussi d'une certaine façon la majorité présidentielle. La pente est glissante pour le gouvernement, avec quelques 500 000 personnes qui ont manifesté dans toute la France samedi pour demander le retrait du texte ou à minima le retrait de l'article 24. C'est cet article 24 du projet de loi qui crée autant de tensions depuis 15 jours, un article qui stipule qu'il ne sera quasiment plus possible de filmer les policiers, de filmer les forces de l'ordre dans la rue, lors d'une manifestation par exemple. En tout cas, toute personne qui filmerait un policier et posterait ensuite la vidéo sur Internet, sur les réseaux sociaux, eh bien, s'exposera à de lourdes sanctions dès lors qu'un policier pourra arguer que cela porte atteinte à son image, à sa personne. Alors au départ, l'idée du gouvernement avec ce projet de loi, l'idée du ministre de l'Intérieur, hein, Gérald Darmanin, eh bien, c'est de donner des gages aux policiers. Les syndicats de policiers poussent en ce sens, hein, qu'il soit interdit de filmer les forces de l'ordre en action, ou bien que ce soit eux, les policiers, qui filment l'intervention avec des caméras embarquées, mobiles, qu'ils reprennent en tout cas le contrôle de l'image. Mais c'est justement là que ce projet de loi suscite l'indignation et qu'il met dans la rue des centaines de milliers de personnes, et pas que des représentants de l'extrême gauche ou de la Ligue des droits de l'homme. Hein, non, l'indignation, elle est beaucoup plus large. Ce week-end, tous ces gens, ces jeunes et moins jeunes qui sont descendus dans la rue, l'ont fait à titre individuel. Cette loi, elle est jugée par toute une partie de l'opinion comme liberticide, comme la porte ouverte à tous les excès, tous les dérapages, les bavures des forces de l'ordre, si la police ne peut plus être filmée. Il faut se souvenir de la séquence 2018-2019 avec le mouvement des Gilets jaunes, hein, toutes ces manifestations qui ont duré plus d'un an tous les samedis. Il y avait des bandes de casseurs qui s'invitaient dans les manifs. Il y a eu des affrontements très durs avec les forces de l'ordre. La police a répliqué et c'était légitime. Il fallait maintenir l'ordre. Hein. On se souvient de ces images, le chaos sur les Champs-Élysées, des boutiques éventrées, brûlées. Mais le mouvement des Gilets jaunes ne se résumait pas à ces seules bandes de casseurs, bien entendu. Il y a eu des manifestations tous les samedis avec des dizaines de milliers de personnes dans la rue. Et les forces de l'ordre, parfois, ont fait, oui, un usage disproportionné de la force pour disperser ces manifestations, pour les empêcher. Certains manifestants qui n'étaient pas des casseurs ont été durablement blessés, certains ont pris des tirs de flashball, ont perdu un œil. Et toutes ces scènes, elles ont été documentées parce qu'elles ont été filmées par des gens qui étaient là, dans la rue, au même moment. Et parfois, ces vidéos ont permis de mettre en évidence les excès de la police. Et plus généralement, En dehors des manifestations, eh bien ces derniers mois, nombre de vidéos amateurs ont permis de dénoncer, et plus d'une fois, dans telle ou telle ville, dans tel ou tel quartier, des dérapages de la police.
Alors, la colère et la mobilisation contre ce projet de loi sont d'autant plus grands qu'elles coïncident avec l'affaire Michel Zecler. On en a parlé dans nos journaux. Michel Zecler, ce producteur noir de peau qui a été tout simplement passé à tabac par des policiers chez lui.
Oui, alors les policiers incriminés ont été mis en examen et ils risquent de lourdes peines. L'affaire est entre les mains de la justice désormais. Mais pour le gouvernement, pour les autorités, cette séquence, elle est terrible. Au moment où le gouvernement, on vient de le voir, veut durcir la loi pour sécuriser, protéger les policiers, leur donner un cadre pour leur intervention sur le terrain et faire en sorte qu'on ne puisse plus les filmer, eh bien, au même moment, sort cette vidéo d'un producteur de musique, Michel Zecler, littéralement lynché par des policiers en plein Paris. Les faits se sont passés le 21 novembre dernier, dans le 17e arrondissement. Les policiers en question sont, au-delà des coups assénés et dont témoigne le visage tuméfié, déformé de Michel Zecler, ces policiers, ils sont accusés de faux en écriture. Le procès-verbal de leur intervention rejetait la faute sur leur victime. Michel Zecler circulait en fait sans masque dans la rue et lorsqu'il a vu les policiers, il a voulu se réfugier dans son studio, dans le 17e arrondissement, on le disait, mais rien ne justifie le terrible déchaînement de violence qui a suivi à son encontre et que nous montre la vidéo. Au moment où le gouvernement nous parle d'une police qui se veut exemplaire, au moment où l'exécutif veut passer cette loi et que le ministre de l'Intérieur explique qu'il est derrière les policiers, qu'il les soutient dans leur métier difficile, même s'il ne s'agit là que du dérapage de quelques-uns, oui, la séquence est désastreuse pour le gouvernement. Que se serait-il passé sans la vidéo? Alors, il s'agissait d'une caméra de vidéosurveillance, mais cette vidéo, elle a été visionnée plus de 10 millions de fois sur les réseaux sociaux. Et il y en a une nouvelle qui circule, filmée cette fois de son balcon par un voisin, avec des images tout aussi terribles. Et donc, les détracteurs de la loi, ils vous disent... Regardez ce que fait la police, ce qui se passe quand les policiers pensent qu'ils ne sont pas filmés. Cette affaire et ces images, ils sont sortis via le site Loopsider. Ce sont des journalistes qui essaient de faire remonter des affaires, parfois étouffées. Et dans la loi de sécurité globale que veut faire passer le gouvernement, il y a aussi tout un volet sur la presse pour encadrer les médias. Les journalistes qui veulent couvrir une manifestation, ils doivent, si la loi passe, ils devront se signaler auprès de la préfecture. Et c'est aussi là, de la part des forces de l'ordre, une façon d'encadrer le mouvement des médias sur le terrain et indirectement de contrôler ce qui pourra ou non être filmé par les caméras. Et là, toute la profession, tous les médias, tous les grands médias ont réagi. Ils contestent ces articles de loi. Et entre l'affaire Michel Zecler, tous les articles controversés de la loi, il y a le risque pour le gouvernement de se couper de l'opinion. On l'a bien vu jeudi dernier avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui était l'invité du journal de France 2 et qui n'a pas été ménagé par la journaliste Anne-Sophie Lapix. Il y a 10 jours, d'autres scènes filmées ont suscité l'émoi, l'évacuation par la police d'un campement de migrants, place de la République, là encore en plein Paris. Donc voilà où on en est. Officiellement, le gouvernement affirme qu'il n'est pas question de retirer la loi, mais en haut lieu, et pour dire les choses à l'Élysée, forcément, on doit s'interroger. Faut-il passer en force contre l'opinion et d'une certaine façon contre une partie même de la majorité présidentielle, avec des députés qui vous expliquent pour certains qu'ils se sont retrouvés coincés à voter cette loi, dans l'obligation, dans le jeu politique, majorité, opposition, de voter la loi? Ou bien faut-il, pour Emmanuel Macron, le président de la République, renoncer à faire voter cette loi pour retrouver de la sérénité? C'est ce que pensent nombre d'analystes politiques. Emmanuel Macron ne peut pas faire, nous disent-ils, comme s'il n'entendait pas ce qui se dit dans la rue. Le chef de l'État, bien entendu, a condamné les violences à l'égard de Michel Zecler, et il l'a fait très fermement. Mais cela sera-t-il suffisant ce week-end? Et on va terminer par cela. Ce week-end, le prédécesseur d'Emmanuel Macron à l'Élysée, le socialiste François Hollande, s'est invité subrepticement dans le débat avec ce message sur Twitter: quand un texte heurte les consciences et divise la société, quand il risque de provoquer de la violence, il faut le retirer. Fin de citation.
Merci Émile d'avoir décrypté l'actu pour nous cette semaine en France.
Merci, à bientôt.
À la semaine prochaine. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français. Vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Nous avons le plaisir d'avoir Delphine Lanuzel, qui est professeure agrégée de l'Université de Tasmanie. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et vous travaillez au sein de IMAS, Institute for Marine and Antarctic Studies, à cette Université de Tasmanie. Et vous êtes avec cette équipe de plus de 30 scientifiques à travers le monde, responsable de cette étude sur ce qui va impacter les écosystèmes de la région de l'Arctique. Pouvez-vous nous parler un petit peu des implications pour la gestion des ressources et de la gouvernance marine en ce qui concerne l'Arctique?
Oui, alors cette étude en fait est basée sur ce qu'on a essayé de faire, c'est des pronostics en fait de ce qu'on pense va se passer en Arctique. Donc nous avons utilisé des données et des études qui ont été faites dans le passé pour essayer de donner notre meilleure interprétation possible de ce qui va se passer. Alors, c'est pas si simple que ça. La beauté de l'Arctique et de la glace de mer en Arctique, c'est que ça produit ce qu'on appelle un ecosystem service. C'est-à-dire que la glace de mer permet de réguler un peu la chaleur qui va être absorbée par l'océan Arctique. Ça permet de réguler le montant de lumière qui traverse à travers la glace et après atteint les eaux de surface. Ça permet de réguler un peu comme la peau sur votre corps. Ça régule un peu aussi la chaleur et combien de chaleur va se retrouver dans l'océan Arctique. Une autre chose que l'Arctique et la glace de mer en Arctique fait, c'est que ça régule aussi les gaz, et particulièrement les gaz à effet de serre. Oui. Donc en fait, ce que nous avons regardé un peu, c'est comment les différents changements que nous voyons là-bas vont affecter les émissions ou les absorptions de gaz à effet de serre, mais aussi la productivité des eaux de surface ou des eaux de l'océan Arctique. Parce que évidemment, il y a tout un écosystème dans l'Arctique qui repose complètement sur la glace de mer, avec évidemment les zones de pêche aussi qui dépendent plus ou moins de ce qui se passe dans la glace de mer. Donc ce que nous voyons ici, c'est des effets sur tous les différents compartiments en fait de l'océan Arctique, non seulement au niveau des changements des gaz qui vont être échangés entre l'océan et l'atmosphère, mais aussi au niveau de la productivité des eaux de surface. Donc ce qu'on pense va se passer dans l'Arctique, c'est qu'en gros la décroissance de la glace de mer va en fait rendre l'Arctique comme juste un océan. Donc on aura surtout des espèces océaniques qui vont se retrouver en Arctique, et les espèces qui avant étaient complètement habituées et complètement dépendantes de la banquise, elles vont disparaître. Donc c'est pas une vue très rose de ce que nous pensions déjà, mais ça réaffirme un peu les changements qui sont déjà en cours et qui vont sans doute s'accélérer dans le futur.
Et est-ce que les baleines, par exemple, les ours polaires, la morue, vont-ils souffrir suite à cette fonte de l'Arctique?
Tout à fait. Oui, parce que ce sont des espèces qui dépendent de la formation et de la fonte de glace. Il ne va pas être possible pour ces espèces de survivre de manière pérenne si la glace de mer n'est pas là. Donc elles vont être remplacées par des espèces qui sont habituées à des eaux comme des eaux dans l'océan en fait, qui sont plus habituées à des eaux un peu plus chaudes et avec moins de surface de glace. Donc on aura en fait un changement du type de ressources et d'écosystèmes qui va être en Arctique. En fait, la biodiversité dans l'Arctique va complètement changer.
Et donc du coup le terrain de chasse se réduit pour eux?
C'est ça, le terrain de chasse se réduit, c'est déjà en cours. La glace de mer est de plus en plus jeune, donc elle est de plus en plus de moins en moins épaisse, parce qu'on avait avant beaucoup de glace multisaisonnière, où on avait jusqu'à 10-15 mètres d'épaisseur de glace. Maintenant, on se retrouve avec beaucoup de zones où il y a juste un mètre d'épaisseur, voire pas du tout de glace de mer. Et aussi, c'est que la saison de glace est de plus en plus courte. Donc tout ça, ça affecte le cycle saisonnier des algues de glace qui grandissent. Ça affecte évidemment les cycles de reproduction de beaucoup d'espèces animales qui dépendent de la formation et de la fonte de la glace tous les ans pour vivre. Donc évidemment, on a un effet domino, ou alors on enlève une partie du système et il y a tout le reste du système qui s'écroule.
Et donc, l'autre jour, j'ai vu un reportage de France 2 sur Saint-Pierre et Miquelon, un pays francophone de la région, où les autorités prévoient une montée des eaux assez dramatique.
Oui, la glace de mer, en fait, il y a deux choses au niveau de la glace. On a la glace continentale et la glace de mer. La glace continentale, ce sont nos glaciers, ce sont la calotte glaciaire, surtout en Antarctique et aussi dans le Groenland, qui, ces glaces, si elles fondent, elles ont un effet direct sur la montée des eaux. La glace de mer aussi, elle-même, c'est juste de la banquise qui flotte, et donc elle n'a pas un effet direct, mais elle a un effet indirect sur la montée des eaux, puisque la montée des eaux peut se passer parce que les océans deviennent de plus en plus chauds. Et donc, ils s'épandent, en fait. Ils deviennent de plus en plus larges et prennent plus de volume. Et donc, vu que ça se passe, et ben, ça augmente aussi la montée des eaux. Donc ça, ce sont des études qui se font en Arctique et en Antarctique, où on essaie de comprendre un peu à quelle vitesse la montée des eaux va se passer pour qu'on puisse se préparer au niveau des populations qui habitent soit dans des îles ou qui habitent au niveau du niveau de la mer, puisque la plupart, on a 80% de la population mondiale, habite en bord de mer. Donc si on commence à augmenter le niveau de l'eau, ça a des effets sur le mouvement de population, sur les constructions, sur les infrastructures, sur les aéroports. Donc il y a tout un effet sur toute la planète.
Et professeur, plus près de chez nous, l'Australie, c'est un pronostic similaire selon vous pour la banquise antarctique?
Alors l'Arctique et l'Antarctique sont vraiment au pôle opposé. L'Arctique, en fait, est une mer entourée de continents, et on a vu, grâce aux données satellites que nous avons depuis 40 ans, on voit clairement une décroissance et une perte de la banquise qui est très, très, très effrayante. En Antarctique, en fait, c'est un continent entouré d'océans qui sont très froids et très profonds. Et donc, quelque part, l'Antarctique est un peu isolée des effets directs des changements climatiques. Et la réponse est un peu plus lente. Ça ne veut pas dire qu'elle ne se passe pas. C'est juste que les effets ne sont pas encore vus. Donc, nous savons que les eaux sont en train de se réchauffer autour du continent antarctique. Et parce que ces eaux se réchauffent, elles commencent à faire fondre un peu la calotte glaciaire. Et donc, on a des effets qui sont déjà mesurables. Mais aussi, au niveau de la banquise, là, les effets sont complètement différents de l'Arctique, parce qu'en Arctique, donc, on voit une décroissance, mais en Antarctique, on a vu une croissance de la banquise depuis une quarantaine d'années, avec les données satellites. Mais ça a été chamboulé il y a 3-4 ans, où nous avons commencé à avoir une décroissance très rapide de la banquise antarctique, à une vitesse encore plus rapide que ce que nous voyons en Arctique. Donc l'Antarctique est en train de changer aussi, mais on ne sait pas du tout pour combien de temps, depuis quand et à quelle vitesse, puisque nous n'avons pas toutes les données pour pouvoir mesurer ça.
Et peut-être pour terminer, est-ce que vous travaillez sur d'autres projets au sein du Institute for Marine and Antarctic Studies en Tasmanie?
Oui, nous travaillons, l'Institut a plus de 300 personnes, donc nous travaillons beaucoup sur l'océan austral et sur la cryosphère, donc la glace de mer et la calotte glaciaire. Mais les gens ici travaillent aussi sur les changements au niveau des zones tempérées. Donc ils travaillent sur les océans qui sont plus près de l'Australie ou autour de l'Australie. Donc il y a toute une zone une richesse d'études qui sont en cours ici. On travaille aussi sur les plastiques, on travaille sur plein de choses en fait.
Professeur Lanuzel, merci à vous et à une prochaine fois. Merci.
Avec plaisir.
Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous jeudi à partir de 13h sur les ondes SBS French. Entre-temps, n'oubliez pas de télécharger nos podcasts sur sbs.com.au/french. Excellente fin d'après-midi et on vous laisse en chanson avec Danny qui nous interprète Horizon Doré. À bientôt.
Oh, contre la peau, a-t-on des raisons d'espérer? Oh, oh, les horizons dorés. Sans toi, je suis sans vision. Sans toi, quand j'y pense, l'horizon n'a aucune chance. À quand les horizons?
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.